Voilà, alors nous allons recommencer. Donc je laisse la parole à Despina Provata pour présenter donc la conférence plénière de Daniel Coste. Despina, tu es là?
Oui, je suis là. Je ne sais pas, vous m'entendez?
Oui, très bien, c'est parfait.
Bien. Bonjour, bonjour à tout le
Bonjour.
monde. Permettez-moi d'abord de remercier l'Université de Tours et les organisateurs de ce colloque, Véronique Castellotti et Marc Desbonneaux, qui m'ont proposé de présider cette séance, de modérer cette séance, et de les remercier aujourd'hui de nous accueillir à distance, à Tours, pour ces journées qui s'annoncent passionnantes. Nous avons le plaisir donc aujourd'hui d'avoir Daniel Coste, Monsieur Daniel Coste, qui est professeur émérite de sciences du langage et de didactique des langues à l'École nationale supérieure de Lyon. Il est aussi ancien directeur du CRIDIF, où s'est déroulée une grande partie de sa carrière. Et à l'ENS, il a dirigé l'équipe de recherche plurilinguisme et apprentissage. Il est aussi professeur de linguistique appliquée à l'Université de Genève, où il a dirigé l'École de langue et de civilisation française. Et ses travaux ont été longtemps associés à la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe, et il a appartenu à l'équipe de rédaction du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour nous, pour les Sifflésiens, il est le premier président de notre association, et il appartient aussi à l'ADEB, l'Association pour le développement de l'enseignement bi-plurilingue. Ces publications que tout le monde connaît portent sur la didactique des langues, la diffusion du français, la linguistique appliquée et les politiques linguistiques, l'éducation plurilingue et interculturelle. Monsieur Daniel Coste, je ne sais pas s'il est avec nous, Daniel.
Oui, Daniel, il faudrait que tu
Non.
allumes ton micro. Daniel, tu peux allumer ton micro. Oui, c'est bon.
Moi, je ne le vois pas en tout cas. Alors,
Voilà, c'est bon. Daniel est là.
le titre de sa conférence, c'est Se raconter des histoires, point d'interrogation. Vous avez la parole.
Merci, Lespina. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens bien évidemment d'abord à remercier les organisateurs, et en particulier Véronique Castellotti et Marc Debono, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à prononcer une conférence. Je crois que c'est en partie dû à mon grand âge, puisque au début de la période qui est celle qui nous retient pendant ces 2 jours et demi, j'étais déjà né, donc pas encore tout à fait actif dans le domaine, mais je sens que le temps présent, pour moi, c'est l'histoire du temps présent, remonte tout de même assez loin. Je voudrais, avant de vous proposer mon PowerPoint, commenter un petit peu le titre, hein, de cette intervention. Dans la mesure où il y a un jeu entre un article ancien, disons, que j'avais fait dans un cadre lié à la Sifless et qui s'appelait Pour ne plus se raconter d'histoire, et qui visait en quelque manière à essayer de sortir justement d'une reconstruction légendaire et souvent assez folklorique. Du passé de l'enseignement des langues et en particulier du français. Et je souhaitais souligner, comme beaucoup d'autres à ce moment-là, bien sûr, à quel point nous avions besoin de sortir de cette phase. Si j'ai donné comme titre aujourd'hui Se raconter des histoires, point d'interrogation, c'est peut-être parce qu'il y a matière aussi à revenir sur le côté en quelque sorte narratif, hein, de notre histoire du domaine. Et c'est un petit peu autour de ces questions-là que j'introduirai et que je terminerai ma contribution. Je vous propose maintenant de partager l'écran. Donc c'est en quelque sorte un va-et-vient entre le général et le singulier que je vais vous proposer, et je crois que ça sera un des aspects peut-être de cette rencontre, compte tenu de sa périodisation. À certains égards, pour avoir participé à bon nombre des épisodes dont il sera question, en tout cas pour ce qui est de la partie francophone, on pourrait se considérer comme Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo. On est pris dans une forme d'épopée, peut-être, s'agissant de cette histoire du domaine depuis une soixantaine d'années. Et en même temps, on n'est pas très certain d'avoir les repères qui permettent même de se situer dans cet ensemble. Donc, ce que je vais essayer de faire pour ce qui me concerne, c'est justement d'essayer de me situer en tant qu'individu à bien des égards, en tant que Daniel Coste, et aussi en tant qu'acteur d'un certain nombre d'événements, parmi d'autres bien sûr, parmi d'autres événements et parmi d'autres acteurs surtout. Alors pour essayer de baliser, pas simplement sombrer dans des ratiocinations ou dans des récits personnels, j'ai essayé de m'appuyer sur un certain nombre d'étapes qui me paraissent importantes à plus d'un titre et auxquelles j'ai été directement ou indirectement associé, à savoir la mise en place d'un certain nombre d'instruments qui ont eu leur importance dans l'histoire, en tout cas vu du côté surtout francophone, mais pas seulement bien sûr, hein, le français fondamental dans les années 50, The Threshold Level, et son complément, son rival, sa variante, un niveau seuil, le cadre européen commun de référence pour les langues, bien sûr, et puis, plus récemment, mais je serai très bref sur ce plus récemment, la version en quelque sorte complémentaire, hein, du cadre européen commun de référence pour les langues, le Companion Volume, publié en 2018 et puis hors de notre période en 2020, disons. Et puis un texte que, avec Marghisa Cavalli, nous avons proposé en 2015, qui s'appelle Éducation, Mobilité, Altérité, et qui avait pour caractéristique d'avoir été lancé comme projet en même temps que ce qui est devenu le Companion Volume. Autre essai d'ancrage pour moi dans ce parcours, c'est d'essayer à chaque fois de situer les instruments en question par rapport à des modèles, des concepts, des cadres conceptuels qui les ont accompagnés à l'intérieur de moments historiques qui en général n'étaient pas indifférents. Autre peut-être constante, mais du fait de l'objet même, un certain type d'interrogation entre, disons, monde anglophone et monde francophone dans ce parcours, lié notamment, bien sûr, à la montée de l'anglais, et une espèce d'interrogation qui va parcourir mon intervention, celle d'un rapport entre des dimensions linéaires et des dimensions modulaires. Si on se penche tout d'abord sur le français fondamental et en partie sur ses suites, et qu'on s'interroge sur le moment historique particulier, bon, il est clair que on est dans une période qui, en France, va être sentie comme celle d'une décolonisation qui va s'amorcer inévitablement, et avec un enjeu qui est celui d'une consolidation éventuelle de la place du français, notamment dans l'empire colonial qui ne sera plus l'empire colonial, et qu'il s'agit en quelque sorte d'arrimer un peu plus au domaine et à l'influence d'une certaine manière française, en étendant la place du français qui était pour le moins réduite dans le dispositif, disons, colonial ancien. l'enquête qui porte sur l'établissement, disons, d'un français de base qui est devenu français élémentaire, qui est devenu ensuite français fondamental, est bien connue. La dimension scientifique qu'elle prend, c'est sa dimension quantitative, sa dimension d'enquête, sa dimension de dépouillement, sa dimension statistique. Et en plus, sur un corpus nouveau à l'époque, oral, hein, de conversation. Oral est justement non comparable à certains égards, et les auteurs ont pris bien soin de s'en distinguer sur des travaux antérieurs comme le Basic English. Donc dès le départ, hein, du parcours que je propose, on a une espèce de distinction et de mise à distance entre anglophonie et francophonie, dans le souci de se débarquer assez tôt dans cette opération. C'est aussi le moment où un autre partenaire institutionnel qui va m'accompagner au long, le CREDIF, va se mettre en place, hein, et où ce centre va être marqué tout de suite par des personnages qui vont devenir en quelque sorte des lieux de mémoire à eux seuls, hein, Paul Rivinck et Peter Guberina, avec tout leur travail, non seulement autour de l'enquête, mais autour de ce qui va devenir ensuite le structure au global audiovisuel. Alors, les types de concepts qui sont mobilisés à l'époque sont très nettement marqués par une insistance sur la situation de communication, sur la parole vive, hein, celle qu'on essaie de recueillir, et avec un souci en quelque sorte d'aller au plus utile, parce qu'au plus présent dans les usages ordinaires. On sait que, en fait, la dimension consolidation du côté de ce qui va devenir l'ex-empire a été un peu, disons, tâtonnante, et que très tôt, on a eu, notamment avec l'arrivée du gaullisme au pouvoir en 58, une réorientation des usages du français fondamental vers quelque chose qui relevait plus d'une politique de diffusion au sens, disons, large et mondial du terme, hein, une diffusion du français dans le monde. Je joue évidemment sur le titre d'une revue qui a été fondée dans cette période particulière, hein, comme le BELC, comme le CREDIF, etc. Alors, dans cette partie de l'histoire, le Conseil de l'Europe est présent assez tôt, mais plus comme relais en quelque sorte, notamment des travaux de type études de corpus oraux ou importance des méthodes audiovisuelles. Hein, mon premier contact avec le Conseil de l'Europe a été en fait en 66-67, si je me souviens bien, au titre de la division de l'enseignement supérieur, pour discuter justement sur les questions de langue parlée et d'enquête de ce type, hein, Paul Rivinck qui était avec moi à l'époque. Mais c'est aussi le moment où des acteurs importants institutionnels apparaissent dans le champ, avec l'AILA et l'AFLA. L'AILA notamment à Nancy, hein, Association Internationale de Linguistique Appliquée. C'est le moment où, d'une certaine manière, le français est actif et présent. Le deuxième temps que je vais essayer de caractériser rapidement va être celui du threshold level et de un niveau seuil. Mais pour ça, il me semble qu'il faut rester à Nancy un petit moment, et rester à Nancy en compagnie de Bertrand Schwartz, un homme important, je crois, aussi dans l'histoire, notamment de l'éducation permanente, de la formation continue. C'est quelqu'un qui a été à l'origine de la création des missions locales pour l'emploi, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est un acteur aussi important du domaine, qui a été présent à l'Institut national de formation des adultes depuis 1963, il l'a créé en fait à Nancy, et qui dans ce cadre-là a proposé des systèmes d'unités capitalisables au titre de l'éducation permanente, en mettant en place une réflexion sur la formation tout au long de la vie, l'éducation tout au long de la vie, et la nécessité dans cette perspective de valider des acquis, même des acquis transitoires, hein, par le biais justement d'unités capitalisables comme opposables au diplôme. pas opposable au diplôme, mais en tout cas comme étant des étapes vers ce qui étaient les diplômes, disons, terminaux de l'époque. Et ça valait bien particulièrement pour les langues vivantes, avec, on le sait, des diplômes d'université prestigieux, certes, hein, mais qu'il fallait mériter à l'occasion d'un long parcours et avec une absence, en quelque sorte, de reconnaissance intermédiaire si on lâchait en cours de parcours. Les unités capitalisables me paraissent être des éléments tout à fait fondamentaux dans le parcours que je propose ici, dans la mesure où le questionnement qu'elles vont poser est celui de la nature dont elles les organisent. À savoir, est-ce qu'il va s'agir d'une capitalisation par accumulation verticale, hein, ou est-ce qu'il va s'agir d'une capitalisation par justement un système d'unités qui peuvent être combinables de différentes manières et donner lieu à des parcours différenciés. Alors c'est à ce moment-là que le projet langue vivante va effectivement démarrer, dans la mesure où les langues vivantes devront être considérées comme étant un objet d'expérience des unités capitalisables pour le Conseil de l'Europe. À un moment où le Conseil de l'Europe entre véritablement dans le jeu, hein, considérer que les langues vivantes vont donner en quelque sorte une bonne matière pour essayer de penser ces systèmes d'apprentissage des langues vivantes et en la circonstance par les adultes, hein, dans le contexte où on trouve à ce moment-là. J'espère, mais j'aurais pu le vérifier auparavant, qu'on m'entend correctement. Oui, d'accord. Et c'est là qu'on va voir apparaître donc la threshold level, qui est ma deuxième étape, hein, dans ce parcours. Avec, je reproduis ici le titre de la première édition, The Threshold Level, In a European Unit Credit System for Modern Languages Learning by Adults. Avec, pour auteur, Van Eck, néerlandais, Université d'Utrecht, qui fait partie à ce moment-là du groupe de Borges qui a été constitué et qui travaille au contact de personnes comme John Trim, hein, le responsable du projet jusqu'en 1998, hein, et puis des gens comme Eddie Roulet, René Richterich, etc., pour ce qui est notamment de la partie francophone. J'ai reproduit ces deux éléments parce qu'ils me paraissent assez symptomatiques justement des questions que nous posons sur l'histoire de la recherche. Dans la mesure où, dans la notice du threshold level, Jan Van Eck ou John Trim, je ne sais plus, écrit « This fundamental piece of research on the operational definition of language learning objectives in published in English, although it is to a large extent non-language specific, it was worked out against the background of English as a specification, as a language, j'ai mon écran qui me perturbe un peu là. The following phase of the work. Bon, je passe rapidement ici, mais ce qui m'intéresse ensuite, c'est adaptations of the present threshold level definitions for French to other languages. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a quelque chose qui change en quelque sorte de nature par rapport à ce qui se passait pour français fondamental, dans la mesure où il va s'agir d'adaptation à partir d'un modèle. Ce n'était pas le cas pour le français fondamental. Hein. Bon, on pouvait faire un anglais fondamental si on avait envie de faire autre chose que le basic English. Il y a eu l'espagnol fondamental, le portugais fondamental, etc., etc. Mais il ne s'agissait pas de reproduire un modèle en tant que tel. Là, on a quelque chose qui devient un modèle pour d'autres langues, qui a donc une valeur de transversalité. Et ce modèle, il n'est pas établi sur n'importe quel arrière-plan conceptuel et, disons, d'orientation, mais sur trois principes. Il s'agit d'établir des objectifs d'apprentissage qui doivent être axés sur les besoins, centrés sur l'apprenant et fonctionnels. cela figurant dans l'avant-propos que Yann Van Eyck, en tant qu'en quelque sorte père de l'ensemble, hein, propose pour un niveau seuil. Alors, si on oppose maintenant, enfin, si on met, disons, si on confronte en quelque sorte les tables des matières de la première version du Sfashon de la Baule et puis la table des matières générique d'un dérivé, le premier dérivé en quelque sorte, portant sur le français, à niveau seuil, on peut voir apparaître un certain nombre de différences qui me paraissent assez significatives, là aussi, de notre propos général. Le fait que il y a déjà une différence, disons, quantitative, hein, 235 pages du côté du Special Level, 600 et quelques du côté du niveau seuil. Je crois que ce que nous avions souhaité faire à l'époque, avec donc l'équipe qui comportait quatre autres collègues, hein, Victor Ferenczi, Eliane Papo, Michel Martin-Baltard et Janine Courtillon, c'est certes de jouer le jeu, hein, c'est-à-dire de reprendre le cadrage général du Special Level, mais en même temps de, je dirais pas de le subvertir, mais en tout cas d'y ajouter un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient fondamentaux à propos d'une interrogation assez claire que nous avions, qui était ne pas considérer peut-être que cette base de départ que constitue le Special Level, même en tant que s'adressant à un public éventuellement particulier, touristique notamment, ne devait pas être le seul objectif de départ, mais qu'il fallait en décliner plusieurs. D'où l'intitulé « Un niveau seuil » plutôt que « De 60 euros ». Alors, les ajouts que nous avions proposés, c'était d'essayer de caractériser un certain nombre de composantes qui nous paraissaient intéressantes, notamment la distinction entre publics et domaines. J'avais essayé à l'époque de distinguer cinq types de publics, hein, pas simplement les touristes, mais aussi les travailleurs migrants, les familles de travailleurs migrants, les scientifiques, etc., etc. Et de croiser cela avec des domaines d'usage, hein, de relations sociales, entre des relations familiales, des relations de type grégaire, des relations professionnelles, etc. Donc c'était un petit modèle très rustique, mais qui visait en quelque sorte à caractériser chaque public par rapport à des types de besoins éventuels. L'élément le plus important, sans doute, était apporté par Michel Martin-Baltard et Janine Courtillon, avec l'appellation « acte de parole » et non pas « fonction langagière », et avec une grammaire chez Janine Courtillon se présentait comme étant une grammaire sémantique et non pas une grammaire, disons, classique redistribuée. Bon, d'un point de vue théorique, hein, je crois que ce qui va caractériser un peu cet objet, c'est que on va avoir un objet hétérogène au bout du compte, du fait de ses références, hein, à un niveau seuil, du fait aussi peut-être de sa visée, face à un objet homogène, le Sfashon de la Baule. L'hétérogénéité du niveau seuil, elle tient sans doute à ce que, d'une certaine manière, les arrière-plans théoriques étaient relativement apparents. Hein. On était dans une époque bien connue, hein, où la sociolinguistique, la pragmatique linguistique, tout ce qui, du côté anglophone, va s'appeler Communicative Language Teaching, Communicative Language Learning, Communicative Competence. C'est tout le bain des approches communicationnelles, hein, qui fonctionne à plein à ce moment-là. Et on a quelque chose qui va influencer très fortement la suite des opérations. On va voir d'un côté donc une complexification verticale, hein, dans ce que j'ai appelé ici, le fait que après le Threshold Level, on va avoir l'élaboration d'un niveau préalable au Threshold Level, au A-Stage, d'un niveau postérieur au Threshold Level, Vintage, et qu'on est véritablement de ce côté-là dans une perspective qui est une perspective, disons, de montée en gamme, si je peux dire, hein, avec des objectifs de plus en plus ambitieux du point de vue de leur niveau. Et puis surtout, et c'est un autre point fondamental que je tiens à souligner, c'est que l'évaluation à ce moment-là va devenir un enjeu déterminant et un marché décisif. C'est le résultat très direct, en fait, des unités capitalisables pensées en termes de progression, pensées en termes d'accumulation verticale. Dès l'instant qu'il y a accumulation verticale, on peut valider à tous les niveaux, très bien pour les apprenants, très bien pour les adultes dans leur parcours, hein, qui ont une forme de reconnaissance de leur début de parcours, mais aussi très bien pour les fournisseurs d'évaluation, hein, pour les certificateurs, qui vont pouvoir multiplier à l'évidence, hein, leurs propositions de certification. Donc le marché de l'évaluation se met en marche à ce moment-là, véritablement, et on va avoir un certain nombre de conséquences. Alors, ce sur quoi je voudrais aussi un petit peu insister, c'est que dans cette relation avec les institutions, il n'y a pas simplement un souci de différenciation, qui est quand même assez sensible dans le décrochage relatif de un niveau seuil par rapport au threshold level, mais qu'il y a aussi des tensions internes aux institutions elles-mêmes. Dans la mesure où, à l'époque, le Crédif a été embarqué dans cette affaire grâce à Louis Porcher, le nouveau directeur du Crédif, qui, dès que la proposition a été faite que le Crédif s'occupe de faire la déclinaison pour le français du threshold level, a, je dirais, sauté sur l'occasion. C'est-à-dire qu'avec son sens stratège remarquable, il a considéré que le Conseil de l'Europe était un lieu qu'il fallait, d'une certaine manière, pénétrer. Mais en même temps, à l'intérieur du centre, il y avait un souci aussi de se différencier par rapport à l'appareil conceptuel qui était mis en place au niveau du Conseil. Il y a eu, dès ce moment-là, des interrogations sur la notion de besoin, des interrogations sur le fonctionnel, des interrogations sur tout ce qui concernait, en quelque sorte, les dimensions qui étaient mises avant dans le modèle européen, les deux retournements, disons, majeurs opérés par Louis Porcher étant de dire on ne s'intéresse pas simplement à un enseignement, à un français qui serait un français fonctionnel, mais on s'intéresse d'abord à un enseignement fonctionnel du français, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. De même qu'on ne s'intéresse pas nécessairement aux besoins qui sont des besoins, disons, à terme des apprenants, mais qu'on a en quelque sorte à se dire de quoi avons-nous besoin pour centrer les apprentissages sur les apprenants. Ce qui, évidemment, renversait la table d'une certaine manière. Donc, par ailleurs, à l'époque, hein, je crois que c'est un autre point que je souligne au passage, mais qui me paraît fondamental, y compris dans une perspective de relation à la critique des institutions, qui est que dans le jeu à ce moment-là du Crédif, il y a un positionnement qui est délicat entre affaires étrangères, éducation nationale et Conseil de l'Europe, c'est-à-dire entre un ensemble d'institutions qui sont à la manœuvre. Affaires étrangères essaie de passer d'une phase de diffusion tous azimuts à une phase de ciblage sur des publics privilégiés, hein, d'où l'appellation français fonctionnel. Donc on est dans une situation qui est post-français fondamental en termes de politique linguistique. Du côté de l'éducation nationale, il y a tout l'enjeu notamment de ce qui va concerner les migrants, hein, l'accueil de la migration. Et Louis Porcher embarque carrément aussi le Crédif à ce moment-là dans le domaine de l'accueil des migrants, la scolarisation des enfants de migrants. 76, bon, je passe rapidement là-dessus, mais c'est aussi un moment, disons, de bascule à bien des égards, hein, avec le dictionnaire didactique des langues et puis l'article de Louis Porcher. Il faut que j'accélère. Avant d'en venir au cadre européen commun, je crois qu'on a besoin de dire quelques mots de ce qui se passe entre-temps, hein, entre 76 et 91, avec notamment une interrogation sur les questionnements, disons, polémiques. L'ouvrage d'Henri Besse et de Robert Galisson en 80, la mention qui était faite tout à l'heure par Véronique Castellotti des débats sur didactique, didactologie, l'introduction des dimensions déontologiques et éthiques, on y reviendra, donc je peux passer très vite. Il y a une construction évidente du domaine avec un certain nombre d'associations qui apparaissent à ce moment-là, dont la Sifless. Donc on entre entre 80 et 90 dans une phase qui est une phase de grande complexification du secteur et où les acteurs et les institutions auxquelles je m'intéresse ici deviennent non pas marginaux, mais en quelque sorte des acteurs et des institutions parmi d'autres. Alors, quand on arrive à 91, donc à ce qui va être l'étape liminaire, fondatrice du CECR, on est dans une double dynamique de nature tout à fait différente. D'un côté, la prolifération en quelque sorte des certifications a été telle que notamment les anglophones n'y retrouvent plus leurs petits. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus ce qu'on mesure par telle ou telle certification pour telle ou telle langue. Ça prolifère, et ça prolifère de façon dangereuse parce que, d'une certaine façon, les majors ne s'y retrouvent plus ou du moins ne sont plus en première ligne dans cette multiplication. Donc, d'une certaine façon, il faut faire le ménage. L'autre dimension fondamentale, c'est évidemment que 91, c'est après 89, et que on n'a pas pu ne pas s'apercevoir que ça va modifier pour le Conseil de l'Europe la donne. C'est-à-dire qu'à l'évidence, un certain nombre de pays nouveaux membres d'une Europe ouverte, en quelque sorte, vont demander leur adhésion au Conseil de l'Europe et vont commencer à le faire avant, dans bien des cas, de passer à l'étape Union européenne. Donc, on est à un autre moment charnière qui va donner lieu à élaboration, je vais peut-être revenir en arrière en fait, à élaboration enfin à un moment de discussion qui est relativement important, mais qui, comme le débat entre, enfin le débat, le côte à côte entre threshold level et un niveau seuil, va non pas tourner court, mais aboutir à une victoire évidente d'un côté, c'est l'opposition qui est à ce moment-là assez nette formulée entre une approche par niveau, donc une approche cumulative verticale, celle qui est proposée par Brian North au moment du symposium de Ruchlikon, et celle d'une approche de construction d'objectifs et donc de construction de modes d'évaluation modulaire, qui est celle que je propose dans cette même rencontre. Donc on a en quelque sorte face à face deux conceptions qu'on avait déjà vues apparaître très tôt en quelque sorte dès des Schwartz quant à ces deux conceptions des systèmes d'unité à mettre en place. Alors bon, que croyez-vous qu'il advint? Je crois que les réponses sont claires, de même que de threshold level s'était diffusé alors qu'un niveau seuil restait un petit peu en panne. De même, le CECR va donner lieu à une diffusion des niveaux alors que l'approche modulaire restera, elle, très secondaire, disons, et marginale. Reste qu'on a à ce moment-là un autre aspect qui me paraît important, c'est que on a essayé de mise en place d'une espèce de modèle général qui va commander la construction même de l'instrument CECR, à savoir essayer de penser en quelque sorte la communication et l'apprentissage comme étant un mode particulier de communication sous un générique qui est celui de ce qu'on a appelé, disons, une approche actionnelle, une perspective actionnelle, de considérer qu'on peut penser l'ensemble de ces phénomènes par une déclinaison centré en quelque sorte sur l'acteur social, en termes de L'acteur social mobilise des compétences qu'il a, des savoirs, des savoir-faire, etc., en particulier une compétence à communiquer, et tout ça va se manifester par des activités langagières, dont celle de médiation, dans des domaines particuliers. Bon, je passe là-dessus parce que je pense que c'est… Et tout ça étant géré par un petit moteur, en quelque sorte, stratégie, tâche, portant sur des textes. Du côté à rouge, c'est ce qui se passe en principe dans le non-observable. Du côté bleu, c'est ce qui se passe en principe dans l'observable. Ce modèle général, avec ces six niveaux de description, je crois que dans la période d'élaboration entre 1991 et 2001, moment de sortie, je suis encore dans les temps, mais pas tout à fait, bon, il me paraît caractérisé par deux ou trois éléments qui sont assez fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a au départ ce modèle général qui est proposé et qui va donner lieu à la construction des différents chapitres qui se réfèrent pour l'essentiel, dans un premier temps au moins, dans les premières versions du cadre, à ces différentes dimensions. Et à ce moment-là, tout ce qui concerne les descripteurs et les échelles de niveau figure dans une annexe de la volonté initiale de John Trim en tant que responsable du projet. Et au fur et à mesure de l'élaboration des niveaux seuil, les échelles de niveau vont peu à peu pénétrer l'ensemble des chapitres et en quelque sorte infuser, diffuser, perfuser l'ensemble de l'analyse. Bon, ça n'est pas indifférent, ça semble ajouter une forme de, disons, de cohérence. On peut s'interroger d'une autre manière aussi. Deuxième caractéristique, c'est que parallèlement à l'élaboration du niveau seuil, on a eu du côté de ce qui était encore le crédif à l'époque, non, ce qui n'était déjà plus le crédif, enfin si encore, non, plus, c'était la zone limite, juste avant sa disparition, une étude complémentaire qui a été préparée donc avec Daniel Moore et Geneviève Zarat et qui va en quelque sorte heurter latéralement l'élaboration. Il est clair que la dimension plurilingue, elle n'est pas présente dans la définition générique que je rappelais tout à l'heure et qui figure en haut de cette diapo. Et c'est plutôt encore une fois, un choc latéral qui va apparaître comme tel d'une certaine manière au niveau d'un des chapitres. Le modulaire serait introduit par la bande, mais on a affaire éventuellement à un objet qui lui aussi, comme certains des précédents, en tout cas comme un niveau seuil, est hétérogène et qui a été attaqué comme homogène, mais enfin ça c'est une autre histoire. Il y a aussi bien sûr le fait que la médiation qui apparaît dans cette affaire est justement une dimension qui, au titre des activités langagières, paraît non digestible, apparaît comme quelque chose qui résiste. Je passe sur ceci, non pas pour le négliger, mais parce que je crois que tout le monde est familier avec ceci. Et je m'interroge un petit peu maintenant sur la suite, avec des chapitres, avec des intitulés un petit peu provocateurs. Comment ne pas s'en débarrasser? Ce qui me marque après l'étape 2001 et le lancement du cadre, c'est que on va avoir deux mondes parallèles, en quelque sorte. D'un côté, dans la poursuite des travaux à Strasbourg, après le départ de John Trim, et surtout avec des animateurs comme Joseph Shields, en tant que responsable de la division des politiques linguistiques à l'époque, et avec des acteurs principaux que je cite en bas, Jean-Claude Béaco, qui a été vraiment de toutes les innovations de l'époque, Mike Byram, Marisa Cavalli, Myriam Elie-Cuenna, Francis Goulier, hélas disparu, et puis les collègues du secrétariat, Johanna Pantier et Philia Talgot, qui ont été les chevilles ouvrières fondamentales dans tout ce qui s'est passé. Alors, il y a eu de ce côté-là, véritablement, des éléments nouveaux. Les guides pour l'élaboration des politiques linguistiques, les guides pour le curriculum, l'insistance sur les dimensions linguistiques de toutes les matières disciplinaires. Donc, la plateforme de ressources et de références qui existe et qui est très, très riche et peu consultée sur le site du Conseil, des travaux sur les migrants adultes, sur les réfugiés, là aussi, notamment Jean-Claude Béaco a été à la manœuvre de façon très intense. L'autobiographie des rencontres interculturelles avec Mike Byram. Bon, tout ça continue à exister, à se développer. Et ce qui me paraît étonnant, c'est que à côté, on a une évolution qui est largement ignorante de ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que ça décroche par rapport au Conseil de l'Europe à bien des égards. Par rapport à ce qui s'y fait, et tout est aligné sur les usages du CECR, avec éventuellement les polémiques à quoi ça donne lieu, avec ce que j'appelle ici l'alignement le plus spectaculaire étant celui en quelque sorte du côté français du DELF et du DALF sur le CECR. Je rappelle que le DELF et le DALF, dans la composition originaire, étaient des diplômes modulaires, de la volonté explicite de Louis Borchet, et sont devenus aujourd'hui un ensemble de diplômes. Si on regarde sur le site de France Éducation Internationale, on a pas moins de 18 diplômes de français aujourd'hui, bien sûr avec beaucoup de redondance de l'un et de l'autre, mais en tout cas en affichage 18 diplômes qui sont tous affichés, qui sont tous alignés sur le modèle du CECR. Alors, les épisodes ultérieurs, c'est aussi, et je vais terminer là-dessus, enfin avant de quelques commentaires, disons plus généraux, c'est le fait qu'en 2013, et pour le coup, j'ai du mal à trouver, disons, un voisinage historique d'événements importants, qui paraîtrait plus ou moins en liaison, ou plus ou moins, en tout cas concomitant, avec ce qui se passe là, c'est qu'on a en 2013, au niveau du Conseil de l'Europe, une demande, en quelque sorte, que le Conseil de l'Europe ne peut pas écarter, qui consiste à dire on aurait bien besoin, en quelque sorte, de revoir le cadre européen commun de référence pour y introduire des dimensions qui sont apparues entre-temps, notamment tout ce qui concerne les dimensions plurilingues et les dimensions interculturelles. Donc, il y a une volonté, en quelque sorte, de tenir compte d'une évolution. Et puis aussi pour actualiser. Il y a maintenant de la communication informatique, il y a tout un tas de choses qui se passent, il faut revoir des descripteurs, il faut en ajouter d'autres. Et en même temps, le souci aussi de dire, bon ben, la médiation, il serait bien de l'inclure maintenant. Donc, il y a en quelque sorte un souci d'absorber à l'aide de descripteurs un certain nombre d'éléments qui soit étaient nouveaux, soit avaient résisté à cette espèce d'absorption. En même temps, est lancé un autre projet, du moins en même temps est faite une autre proposition dont j'étais un des porteurs, mais porteur minoritaire, qui consiste à dire basta avec le cadre européen commun de référence, il faut le laisser vivre sa vie. On n'a pas en tant que associé au Conseil de l'Europe à s'en occuper. Par contre, on a à faire le ménage dans les notions et à essayer de voir un petit peu comment on peut réactualiser en quelque sorte le cadre, mais en l'englobant dans un cadrage plus général. Et ce cadrage général, c'est ce qu'on a essayé de proposer avec Marisa Cavalli, en resituant en quelque sorte le cadre à l'intérieur d'une dynamique beaucoup plus, sociale et globale, avec les ambiguïtés que ça peut comporter, avec un espèce de modèle où on essaie d'articuler mobilité, altérité, communauté, groupes sociaux. Je passerai dessus. Donc, Je n'en dirai pas plus un petit peu sur ce voisinage, sauf cette interrogation sur le pourquoi ça redémarre à ce moment-là. Et je m'en tiens là en ce qui concerne disons mon diaporama pour essayer d'en sortir maintenant. Pardon, je suis en train de... Ça vous fait une petite pause. Voilà. Ah zut. Voilà. Je suis de retour. Oui. Bon, j'aurais passé quelques mots de conclusion. Et je crois que bon, on a affaire aujourd'hui, me semble-t-il, à un paysage éclaté, hein, vraiment, pour des raisons diverses, mais c'est ce qui peut paraître frappant, et bon, c'est pas le moment de le commenter véritablement. Je crois qu'on a, si je reviens à cette notion de se raconter des histoires, il m'est venu à l'esprit qu'on est un petit peu dans une forme de dramaturgie. Hein, c'est un peu comme une tragédie, je dirais pas classique, enfin avec des protagonistes et puis des moments. Hein, le français fondamental, c'est un petit peu l'exposition, hein, c'est l'acte 1 en quelque sorte. Le crédit apparaît, le Conseil de l'Europe commence à se manifester, etc. Special level et puis un niveau seuil, c'est disons une forme d'action montante, hein, comme on dit à propos de l'acte 2, hein, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais avec justement des incertitudes et des options possibles. On a un acte 3 et un point culminant avec le cadre européen commun, hein, où les choses véritablement là sont à leur sommet. Et puis on a ensuite quelque chose qui serait un peu l'acte 4, où il y a des choses qui sont moins claires. Action en chute, comme on dit en dramaturgie. Hein. On ne sait pas trop comment tout ça va se finir. Alors, ben, j'en suis un peu là pour ce qui me concerne, et je verrai sans doute pas la fin, mais en tout cas, on peut s'interroger sur les suites. Alors, raconter des histoires, se raconter des histoires, vous raconter des histoires, je pense qu'il y a tout ça à l'arrière-plan de ce que j'ai essayé de faire, avec bien évidemment la conscience que, paradoxalement, j'ai fait du linéaire, alors que j'essayais de défendre des positions modulaires, et que, paradoxalement aussi, j'ai fait du binaire en jouant un petit peu sur le rapport francophone-anglophone, alors qu'habituellement, j'essaie de sortir justement du binaire, et un certain nombre peut-être de participants le savent à coup sûr. Alors, en même temps, ce qui m'a interrogé, c'est que cette progression orientée, hein, 1, 2, 3, 4, elle a pour espèce de conséquence, ou du moins pour espèce de corollaire, qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une méthodologie qui va se raccrocher là-dessus. Donc, on va se retrouver dans une perspective qui était la perspective dont, justement, on voulait sortir pour ne plus se raconter d'histoire. L'histoire que je vous raconte, à chaque fois, elle aboutit à un nouveau courant méthodologique, entre guillemets, hein, ou quelque chose qui est interprété comme tel, hein, le SGAV, l'approche communicationnelle, notionnelle, fonctionnelle, la perspective actionnelle, et puis Dieu sait quoi maintenant, hein, éducation plurilingue interculturelle, ou bien la perspective médiationnelle, je ne sais pas, on verra. Mais bon, ça me perturbe un petit peu aussi. Enfin bon, tant mieux, hein, il faut être perturbé à certains moments. Alors, j'ai essayé aussi de saluer un certain nombre de collègues, parce qu'il me semble que cette histoire, c'est bon, une petite histoire à la figure d'une grande histoire, mais qui n'est pas sans rapport avec la grande histoire, hein, j'ai essayé de le souligner aussi au passage. Une grande histoire qui n'est pas lue de la même manière du côté anglophone que du côté francophone, ça me paraît assez évident aussi. Une histoire qui n'est pas lue non plus en termes de perspective critique du côté anglophone et du côté francophone. Il y a beaucoup plus sur cet ensemble de l'histoire des dimensions critiques parfois violentes, hein, et des interrogations épistémologiques parfois vives du côté francophone que, me semble-t-il, du côté anglophone, mais peut-être qu'un des intervenants qui vont me suivre immédiatement dira le contraire, et c'est tant mieux, hein, ça alimentera le débat. Mais en tout cas, je crois que c'est des choses qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, en tout cas dans l'interrogation ou dans la réflexion. Et puis insister aussi sur le fait que les institutions ne sont pas homogènes à l'intérieur d'elles-mêmes. Le Conseil de l'Europe n'est pas une institution homogène et les objets qui la produisent sont des objets très souvent hétérogènes, avec des tensions internes. Je terminerai peut-être avec un coup de chapeau à John Trim, qui est quelqu'un que j'ai bien connu et que j'aimais bien, et avec qui je me suis souvent accroché, mais enfin ça c'est une autre histoire, et qui disait dans un texte qui s'appelle Talking with Trim, hein, c'est une série d'entretiens qui ont été menés par David Little et puis un autre collègue anglais, Lee King. Et à un certain moment, il l'interroge sur les rapports entre anglophones et francophones à l'intérieur du groupe de projet de cette histoire du Conseil de l'Europe. Et John Trim dit, ça c'est quand même une question intéressante, parce que quand même, ce n'était pas évident au départ. Parce que du côté des francophones, on a toujours l'idée qu'il faut commencer par une clarté intellectuelle avant de se mettre au travail. Et du côté des anglophones, on a au contraire le souci de plonger dans le travail, et puis après, on verra essayer de dégager une clarté intellectuelle de ça. Alors, il dit, ça aboutit en fait à des opinions croisées que j'ai bien vécues, que j'ai bien ressenties. Du côté anglophone, les Français sont bien gentils, mais ça avance pas ce qu'ils font. Et du côté des francophones par rapport aux anglophones, c'est un petit peu le bordel ce qui se passe quand même, hein, et ça demanderait quand même d'être un petit peu nettoyé tout ça. Alors je caricature et je force les termes. Mais John Trim conclut en disant, mais au bout de 3 ans ou au bout de 4 ans, si les gens ont tenu, là on commence vraiment à travailler. Je vous remercie.